Longtemps dénié, le réchauffement climatique est devenu une inquiétude mondiale. Les citoyens exigent désormais des décisions concrètes de leurs dirigeants.
Why should we study for a future that is being taken away from us?
En 2015, la COP21 est un accord historique. Les pays signataires s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
La transition énergétique est en marche. L'avenir est aux technologies vertes.
This is one of the most impressive and astounding technological revolutions in all of history.
Un objet symbolise cette nouvelle donne écologique.
Les gens sont convaincus, on les a convaincus, que s'ils roulaient tous en voiture électrique, alors on aurait résolu tous les problèmes de CO2, tous les problèmes qui existent.
On dit que les éoliennes et les panneaux solaires vont résoudre tous nos problèmes. C'est une erreur.
Et si la promesse des énergies propres n'était qu'un leurre? Le remède ne risque-t-il pas d'être pire que le mal des énergies fossiles?
Tout ce qui nous entoure est fabriqué avec des minéraux. Les voitures électriques sont fabriquées avec des métaux et des minéraux. Et il faut bien aller les chercher dans les mines.
Il n'existe pas d'énergie véritablement propre. Tant qu'il y aura des activités humaines, il y aura de la pollution.
Une face cachée des énergies vertes passée sous silence, tant les enjeux industriels et politiques sont considérables.
La transition énergétique est un immense greenwashing. On fait semblant d'être propre, et en réalité on est sale, on a juste délocalisé la pollution.
La transition énergétique, c'est la promesse d'un monde plus responsable. Loin de nos regards, elle est déjà la cause de nombreux désordres environnementaux. La transition écologique est avant tout une transition économique. Pour s'en convaincre, il suffit de sillonner les allées d'un grand salon automobile comme celui de Genève. L'ère du tout pétrole est révolue, l'électrique est à la mode. Les nouveaux véhicules sont présentés comme verts ou estampillés ZE pour zéro émission. Les constructeurs traditionnels utilisent l'argument écologique pour se réinventer.
Les utilisateurs de véhicules électriques croient au développement durable. Ils veulent agir en faveur de l'environnement et participer à la réduction de la pollution dans les villes.
Comme il est chic et raisonnable d'acheter de l'alimentation bio, demain on va vouloir avoir une voiture propre, et c'est la voiture électrique.
À cette prise de conscience du grand public s'ajoutent de nouvelles contraintes en matière d'environnement. C'est l'un des effets de la COP21, en particulier dans l'Union européenne.
Nous devons respecter les objectifs de réduction des émissions de CO2. Ils sont imposés par la Commission européenne à tous les constructeurs automobiles. Ces objectifs sont de plus en plus contraignants. Si nous ne les respectons pas, nous aurons des pénalités et bien sûr, c'est ce que nous voulons éviter.
À écouter les industriels, la voiture électrique ne présenterait que des avantages. En plus de doper les ventes, elle permettrait de préserver l'environnement. Ce serait donc une technologie miracle. Demain, des centaines de millions de ces véhicules vont rouler partout sur la planète. Certes, le pétrole a été abandonné. Mais dans un véhicule électrique, d'autres matières premières devenues indispensables l'ont remplacé. Il s'agit des métaux rares.
Les métaux rares, essentiellement, c'est un critère géologique. Ils sont rares parce qu'ils sont moins abondants dans la croûte terrestre. Donc on va trouver des métaux rares classiques comme l'or, l'argent, l'étain, les platines. Et puis on va trouver des métaux rares un petit peu plus exotiques, qu'on connaît moins, comme l'europium, le samarium, le gadolinium. Et ces métaux rares ont des particularités physiques et chimiques qui leur permettent de faire fonctionner une voiture électrique.
Ils sont déjà présents partout dans les véhicules à essence. Le cérium, par exemple, permet au pare-brise de filtrer les rayons UV. Les écrans projettent des couleurs et deviennent tactiles grâce à l'europium et à l'indium. Mais dans une voiture électrique, le rôle des métaux rares est beaucoup plus important. Il touche aux fonctions vitales du véhicule. Sans néodyme, la voiture électrique ne pourrait tout simplement pas rouler.
Le néodyme sert à fabriquer des aimants. Ces aimants sont utilisés dans les moteurs électriques et vont permettre de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique et donc de faire avancer la voiture.
La batterie est le cœur d'une voiture électrique. Elle pèse jusqu'à la moitié du poids du véhicule et contient, entre autres, du cobalt et du graphite. Mais pas seulement.
Dans une batterie, vous allez trouver un certain nombre de métaux rares, en particulier le lithium. Le lithium est le plus léger des métaux qui permet d'échanger des électrons, donc de stocker ou de libérer de l'énergie.
L'industrie automobile est donc devenue dépendante de ces matières premières souvent méconnues. Des matières premières que l'on retrouve dans la plupart des technologies vertes.
Il n'y a pas que la voiture électrique qui a besoin de métaux rares, mais dès lors que l'on va avoir besoin des aimants, par exemple, pour les moteurs d'éoliennes, ou de tout ce qui est métaux qui vont permettre de fabriquer les cellules des panneaux solaires, toutes les cellules photovoltaïques ont besoin de métaux rares. Donc pour produire une énergie verte, une énergie renouvelable, on a besoin des métaux rares.
Les énergies propres représentent aujourd'hui près de 10% de la production d'électricité de la planète. Avec la transition énergétique, le solaire et l'éolien pourraient fournir près de la moitié de cette électricité en 2050. Dans ce monde plus vert, il sera presque impossible de s'éclairer, de se chauffer ou de se déplacer sans métaux rares.
Dans les éoliennes, on va trouver les métaux rares principalement dans le rotor pour faire tourner les pales de l'éolienne. Donc dans ces grandes éoliennes, par exemple les éoliennes offshore qu'on va installer dans la mer, on va pouvoir utiliser jusqu'à une tonne de métaux rares par éolienne.
Après le pétrole, c'est donc une nouvelle dépendance que nous sommes en train de sécréter. D'où viennent ces ressources devenues indispensables? Le cobalt est extrait principalement des mines de la République démocratique du Congo. L'Australie, le Chili ou la Bolivie regorgent de lithium. L'Indonésie est un producteur majeur de nickel, de zirconium ou d'étain. Sur tous les continents, de nombreux États produisent déjà des centaines de millions de tonnes de ces ressources. Un pays en particulier détient des réserves colossales de ces matières premières stratégiques. la Chine. L'Empire du Milieu est le premier producteur mondial de métaux rares. Il fournit notamment les deux tiers d'un minerai particulièrement prisé des industriels des green tech, le graphite. Nous sommes à l'extrême nord du pays, dans la province de Heilongjiang. À l'abri des regards, les pelleteuses ont fait tomber la montagne et mis à nu les nappes phréatiques. Pour assurer notre futur vert, le graphite est raffiné dans des usines souvent archaïques. Ces hommes travaillent jour et nuit, quasiment sans protection, dans un environnement irrespirable. Les gueules noires du 21e siècle.
Si l'on respire trop longtemps sans masque, nous savons qu'il y a un risque de maladie ici. Cela peut provoquer la silicose. Nos poumons se transforment en pierre.
Cette fine poussière noire dont l'air est saturé contient de l'acide fluorhydrique. Lorsqu'il est respiré à haute dose, c'est un composé particulièrement toxique, voire mortel.
Vous savez à quoi sert le graphite que vous produisez ici ?
À beaucoup de choses.
Comme quoi, par exemple ?
Le plus courant, c'est pour les énergies nouvelles, les batteries des voitures électriques, et pour l'électronique aussi.
Le monde entier utilise ces produits. Que pensez-vous de cela ?
Bah, qu'est-ce que ça peut me faire ?
Vous n'en êtes pas fier ou bien content ?
On ne pense pas si loin, nous, les ouvriers. Le petit peuple. On n'est pas particulièrement fier. On doit nourrir nos familles. Alors, on travaille. Et si on peut en vivre correctement, c'est déjà bien.
Les résidus du graphite sont disséminés à travers la campagne à des dizaines de kilomètres à la ronde. Un immense tapis de poussière toxique recouvre peu à peu une région agricole sous les yeux des petits paysans. La terre est de moins en moins fertile.
On trouve les résidus de la mine partout. C'est comme des ordures. Bien sûr que je suis en colère. Je suis vraiment furieux parce que les industriels et le gouvernement sont irresponsables. Nous sommes des victimes, mais il n'y a rien à faire. Ils sont grands et nous sommes petits. On ne peut pas les atteindre. Et vous savez, si l'on montre que l'on est trop en colère, ils nous passent les menottes. Il faut venir ici pour le comprendre.
Humaine pèse bien peu face au profit considérable que Pékin tire du graphite. Et la Chine compte des milliers de mines et de raffineries de métaux rares. Indium, antimoine, gallium, mais aussi tungstène ou germanium, elles sont disséminées dans tout le pays.
La position de la Chine sur le marché mondial des métaux rares est très importante. Et les besoins en métaux rares pour l'industrie des énergies nouvelles devraient connaître une hausse rapide au cours des 10 à 20 prochaines années. Il faut savoir que pour certains métaux rares, la demande augmente d'environ 25% par an.